Vous êtes parti pour une mission à court terme, donc en Roumanie, Florence aussi en Inde. Décrivez-moi la liste des objets que vous avez emportés avec vous dans vos bagages. Alors, il y a un micro là. Ouais.
Commence.
Ok. Alors, les objets que j'ai mis. Alors, moi, je me suis plus basé sur mon voyage au Bénin, mais du coup, ça rejoint un peu la même chose. Mais j'ai mis que j'ai pris un visa. Et puis, quelque chose qui m'est venu, c'est que j'ai pris des habits qui étaient culturellement adaptés. C'est-à-dire que je serais parti en short, je pense, mais on nous a dit qu'il fallait aller en pantalon, parce qu'en short, ça va pas là-bas.
T'avais combien d'habits ?
Bonne question. Suffisamment.
D'accord.
Mais okay. Je ne sais plus combien précisément, des chemises.
Donc, t'as pas pris de savon, t'as pas pris de...
J'ai pris du savon.
Ouais.
J'ai pris de me laver les dents, quand même.
Ouais.
J'ai pris... Quoi ? J'ai pris de quoi charger mon téléphone, parce que c'est important.
Donc, t'as pris ton téléphone.
J'ai pris mon téléphone.
Ouais.
J'ai pris ma Bible, quand même.
Ouais.
J'ai pris de quoi écrire, des schlappes, une lampe de poche. Il y a plein de choses, en fait, que j'ai pris.
D'accord, ok. Et puis, quels sont les objets que tu n'aurais pas pu te passer ?
Franchement, bonne question. Bah, je pense des habits, justement, en suffisance. Mon téléphone, avec un chargeur, tout ça. Ma Bible aussi, c'était important. De quoi écrire. Mais vraiment, que je n'aurais pas pu me passer. Je pense tout ce qui est vraiment vêtements, et puis hygiène, tout ça, quoi.
Merci beaucoup.
Alors moi, dans ma valise, je rajouterais, j'avais mis des éléments pour faire des activités avec les enfants. Donc j'avais pris des perles, voilà. Et qu'est-ce que t'as pas dit que j'ai...
Donc t'as pris aussi des habits ?
Évidemment, des habits, ma trousse de toilette, une brosse à cheveux.
Ouais.
C'est pour moi, c'est important. Ouais. Des chaussures, mais juste une paire, histoire de voilà, d'accord, pas prendre de la place. Une gourde vide. Et
des médicaments aussi.
Non, pas médicaments. Des ballons gonflables.
Ouais. Ok. Je vous remercie. Je vous laisse juste vous asseoir encore quelques secondes avant de retourner sur le banc. Et puis, je vous propose une première lecture pour voir comment Jésus... Quelle est la liste que Jésus... Quelle est la liste que Jésus préconise pour une mission à court terme ? Alors, on peut mettre le texte de Marc. Attendez, il faudrait que je mette mon texte. Marc 7, sauf erreur, ou 6. Marc 6, 7 à 9. Je le lis avec vous. Donc, voilà ce que Jésus préconise pour une mission à court terme. Donc Jésus parcourait les villages des environs et enseignait. Alors il appela ses douze disciples et commença à les envoyer deux à deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Je crois qu'on a tout là. Ouais. Voyons un petit peu la différence. Jésus insiste sur un véritable dénuement. Ne pas prendre avec vous ni pain, ni sac à provision, ni argent, ni chemise de rechange. On pourrait traduire par ni carte bancaire, ni assurance de rapatriement. Pas de deuxième slip ou de deuxième paire de chaussettes, même si en Afrique, avec la transpiration, ton slip va commencer à se promener au bout d'une semaine tout seul. Peut-être le verset suivant nous indique quand même que dans le porte-à-porte qui est préconisé, il y a l'hospitalité orientale très connue qui fait qu'en rentrant dans une maison, tu es accueilli, nourri, logé, et tu pourras te laver. Donc, c'est rassurant. Et on est tous touchés par l'hospitalité, chaque fois dans un pays outre-mer, quand nous allons en mission. Et des fois, je suis aussi frappé par, vous allez me dire, qu'est-ce qui regarde cette émission ? Par Pékin Express, où les concurrents doivent, chaque nuit, chaque soir, aller quémander un repas et l'hospitalité, alors qu'ils ont juste un euro avec eux dans la poche. Et je suis assez étonné de l'hospitalité qui est pratiquée dans les pays qui ne sont pas forcément occidentaux. Je vous libère si vous devez partir. Merci beaucoup. C'était la petite leçon pour vous, pour nous tous aujourd'hui. Par contre, donc, Jésus insiste sur trois objets indispensables qui, comme si ils avaient une sorte de valeur d'équipement. Le premier, c'est le bâton. Alors là, j'ai mon père qui était montagnard. J'ai retrouvé son bâton. Et le deuxième, on verra plus tard, c'est la ceinture. Et la troisième, c'est donc les sandales. Le bâton est le symbole de pouvoir et d'autorité. C'est aussi un symbole de haut rang. Plus tard, il sera remplacé par le sceptre royal. Et on voit que Moïse et Aaron en font plusieurs fois usage, selon l'ordre de Dieu, face à Pharaon ou face au peuple d'Israël qui est rebelle. Alors, brièvement, j'ai choisi trois seuls exemples, mais il y en a bien d'autres. Est-ce qu'on peut juste les projeter ? Le premier, c'est dans Exode 7, 19 à 20, ça concerne les fameuses plaies d'Égypte, où Dieu dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang, ainsi il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se confirmèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton, frappa l'eau du Nil sous les yeux de Pharaon et ses serviteurs et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Le second exemple, c'est dans Exode 8, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux et les étangs et fais-en monter les grenouilles de l'Égypte. » Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. Et puis le troisième, dans Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple qui était rebelle, et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Alors, la première question, comme dit Salomé, avec François, on ne repart pas avec des réponses, mais toujours avec des questions. La première question que je me pose, c'est notre statut de chrétien, d'enfant de Dieu et d'ambassadeur de Christ. Quand je pars dans ma journée le matin, est-ce que je prends avec moi mon bâton de l'autorité du nom de Jésus comme son ambassadeur, ou est-ce que je le laisse à la maison, sauf peut-être le dimanche au culte? Moi, je concède cette fragilité. Souvent, j'oublie de prendre ce bâton, de me dire que j'ai reçu l'autorité du nom de Jésus sur toutes les puissances adverses et que je peux, à quelque part, confondre toute épreuve qui pourrait se présenter ou toute situation particulière qui pourrait se présenter et de recevoir le discernement de l'Esprit pour prononcer une parole d'autorité au nom de Jésus et ainsi changer certaines situations. Et c'est clair que si je ne prends pas mon bâton chaque jour, eh bien, il ne va rien se passer et je suis tranquille et Satan aussi. Notre difficulté, avouons-le, c'est quand même contrairement au texte de l'Évangile, cette difficulté, c'est de ne pas vivre une sorte de dépouillement, tellement nous sommes envahis d'informations et de nouveaux besoins indispensables. Mais ne nous excusons pas et prenons chaque matin le bâton de l'autorité du nom de Jésus. Amen. Le deuxième objet, c'est la ceinture. Alors, ce n'était pas la même à l'époque. Hein. C'était vraiment une ceinture qui tenait, qui permettait de tenir le manteau indispensable pour chacun. Alors là, il se trouve que j'ai retrouvé une ceinture, mais comme j'ai fait un régime, je suis obligé de chaque fois percer les trous à la perceuse et de scier les bouts, mais bref. Et je vous propose de lire le texte de Exode 12, 11. Je vous cite le contexte de cette parole tout de suite après. Je vais peut-être reposer mon bâton. Quand vous le mangerez, donc c'est la Pâque, hein, vous aurez une ceinture à la taille, des sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est assez extraordinaire que 1500 ans avant Jésus, au moment où le peuple d'Israël se trouve dans une sorte d'entre-deux, Dieu leur demande de reprendre les trois objets que nous retrouvons dans Marc 7 pour la mission des disciples. Alors, c'est vrai que nous lisons parfois dans les Écritures, dans la Bible, ces expressions bibliques, se cindre les reins, ou bien ayez une ceinture à vos reins. C'est un objet indispensable pour tenir le manteau ou les pantalons, comme nous le savons. Mais ces mots d'ordre signifient littéralement préparez-vous à partir, préparez-vous à agir. Il y a comme une sorte d'urgence dans un événement particulier. Et il y a comme la signification de vraiment nous être prêts à partir pour quelque chose dont on ne connaît pas forcément la destination, dans des situations inconnues. Alors là, le peuple d'Israël, il est coincé entre deux eaux. Sous la conduite de Moïse, il a décidé de s'affranchir de 400 ans d'esclavage sous Pharaon. Mais attention, rien n'est joué. Pharaon n'a pas dit son dernier mot. Il a un genou à terre, mais il n'a pas dit son dernier mot. C'est une sorte de nuit des longs couteaux, comme on dirait. Et dans l'attente du signal de départ, Dieu donne un ordre à Moïse où chaque famille est invitée à sacrifier un agneau sans tache, sans défaut. Son sang est étalé sur les linteaux de la maison comme une protection spirituelle. Et il est rôti au feu sans être démembré, comme Jésus sur la croix. Il sera consommé de nuit par chacun. Et au moment où il consomme pour la première fois cette Pâque qui est instituée pour le peuple juif et qui est encore pratiquée aujourd'hui, chacun est équipé d'une ceinture à la taille, des sandales aux pieds et un bâton à la main prêt au départ. Et là aussi, chaque dimanche, nous reprenons les éléments de la Pâque chrétienne, le pain et le vin, signe du sacrifice de Jésus, signe du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais qui aussi nous délivre de l'esclavage du péché. Et Jésus, il a la volonté que nous n'oublions pas ce qu'il a fait sur la croix, là où il s'est offert comme l'agneau de Dieu. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi, comme pour nous rappeler cet événement du passé. Et il rajoute une perspective future, je ne mangerai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le mange à nouveau avec vous dans l'établissement de mon royaume. Il y a comme une analogie dans la promesse qui est faite pour le peuple d'Israël, celle de Canaan, celle d'un pays où coule le lait et le miel, est celle qui est faite au peuple chrétien, au peuple de l'Église, où nous sommes invités à, nous, à partir vers un royaume de Dieu où toute larme sera effacée et où la justice de Dieu sera exercée après le jugement dernier. Alors ma question, encore une, au moment où je prends le repas du Seigneur au culte ce dimanche matin et les dimanches suivants, est-ce que j'ai pris avec moi le bâton de l'autorité du nom de Jésus? Est-ce que j'ai pris ma ceinture prêt à partir pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que j'ai pris mes sandales aux pieds, signe d'obéissance de la foi, comme nous le verrons un peu plus tard? Ou ai-je déjà dans la tête le rôti qui tourne, ma messagerie à consulter, me réjouir de tchatcher ou de jouer avec ma console? Mais les jeunes, il paraît qu'ils ne sont pas là. Ils sont les 20 en bas pour s'occuper de la... Alors, tant pis pour eux, mais c'était un peu pour eux. Alors, au moment de célébrer, c'était sa première Pâque à Israël. Mais Israël ignore tout de son histoire. Il ignore qu'il va passer miraculeusement le passage de la mer Rouge. Il ignore que l'armée de Pharaon qui le poursuit va être ensevelie sous les flots de la mer Rouge. Et il ignore aussi sa marche dans le désert. Sa seule perspective, sa seule espérance, c'est cette promesse où coule le lait et le miel. Et nous, nous connaissons à travers Jésus le sens de notre salut, mais nous ignorons le jour ou l'heure où il revient. Mais nous gardons cette espérance du peuple de Dieu. Nous sommes néanmoins déjà maintenant à être prêts. Est-ce que nous sommes déjà maintenant à être prêts à lâcher prise? C'est ce qui fait notre identité de citoyen, de chrétien terrestre. Qu'est-ce qui pourrait nous retenir ici-bas? Il y a 6 semaines, j'ai fait une douloureuse expérience. Je taillais une haie chez un ami, pas très haut d'ailleurs. J'avais soif, mais je me suis dit, je finis et puis je boirai après. Et j'ai fait une chute, probablement un malaise vagal, pas très haut. J'étais pas très très haut. Et je suis tombé sur la tête et je me suis cassé les 2 épaules. Alors, ne me demandez pas à la droite qui a été opérée. Elle ne va pas plus haut. L'autre, elle s'est remise toute seule. Bref, je me suis évanoui et je me suis retrouvé dans une ambulance pour le CHUV en me disant, attends, voir. Parce que je me souviens de rien. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais été enlevé par Christ, sauf que j'étais dans une ambulance. Et là, tout d'un coup, tout de suite, dans 2 jours, j'ai les vendanges. J'ai 50 framboisiers à planter. Il y a plein d'herbes à faucher. Il y a 4 mètres cubes de bois qui m'attendent pour rentrer au chalet. Tout de suite, j'ai été pris par des choses, par des soucis, par me dire, mais attends, voir là, qu'est-ce que je vais faire? Comme si j'aurais pu mourir aussi. Hein. Donc, je n'étais pas prêt à être enlevé. Finalement, si vous réfléchissez bien. Et alors, depuis, c'est vrai que j'ai dû quand même lâcher prise, parce que alors, je pouvais plus faire. J'avais un gilet, c'est pour ça que je devais prêcher il y a 15 jours, mais j'avais encore un gilet jusqu'à mardi dernier. Et il me revient chaque matin, ce petit chant de réveil que certains peut-être connaissent encore. Vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Et oui, si tu regardes Jésus les yeux, si tu lèves vers Jésus les yeux, c'est une sacrée leçon pour moi, hein, je peux vous dire. Alors, heureusement, j'ai des copains qui m'ont rentré les 4 mètres cubes de bois, un autre qui est venu me planter mes framboisiers. Et puis, j'étais au vendange, là, en train de dire, « Hé, il y a la caisse, là, t'oublie pas tel avec mon écharpe. » Bref. Le lâcher prise. Et puis j'aimerais revenir sur le quatrième objet. Et là, nous aimerions lire le Deutéronome 29, 1 à 4. Et là, nous sommes 40 ans après le départ, juste avant d'entrer en Canaan, dans le pays de la promesse, le pays où roule le lait et le miel. Et il nous est dit dans la parole de Dieu, Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit, « Vous avez vu tout ce que Dieu, tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux en Égypte, au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, les miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre et des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert, mais vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. » Alors, merci à Salomé de m'avoir prêté ses sandales. Donc, là, vous avez des sandales prêtes à partir pour 40 ans et qui, 40 ans après, ne se sont pas usées. Vous réalisez un peu les chemins caillouteux du désert du Sinaï. Pendant 40 ans, ça risque de tomber. Et je trouve assez extraordinaire, est-ce que c'est pas cette traversée du désert, est-ce que c'est pas une image, une métaphore de nos conditions parfois difficiles, de notre vie chrétienne faite d'épreuves, de choix difficiles, de renoncements pas évidents? Est-ce que c'est pas une image de notre vie chrétienne? Mais on apprend que nos sandales ne vont pas s'user, qu'elles vont rester neuves. Et les sandales à nos pieds sont à la fois la part surnaturelle de la fidélité de Dieu à notre écart et aussi la part de notre part, de notre foi, qui produit l'endurance et qui produit la persévérance dans notre marche de vie chrétienne. Et cette foi, il nous est dit dans Hébreux 11:1, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles que l'on espère. Le bâton, l'autorité du nom de Jésus que j'exerce au quotidien, la ceinture à enfiler, signe d'être prêt au lâcher-prise, et les sandales, ma marche persévérante dans la foi, en l'espérance du royaume. C'est ce que je nous souhaite à tous, que cette foi puisse grandir. Et pour conclure, j'aimerais encore lire avec vous dans 2 Pierre 3, versets 10 à 15 et 17 à 18. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Retenez le mot « nuit ». Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez l'avenir du jour de Dieu, le jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et là, on saute au verset suivant. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Soyez bénis. Merci.